Chapitre 25. Alors qu'elle remontait une grande avenue à la tête d'un petit groupe d'hommes, Nietzsche songea que le soleil semblait avoir disparu depuis le départ de Richard. Qu'il était dur de ne plus voir danser dans ses yeux l'étincelle de vie qui avait transformé l'existence de l'ancienne favorite de Jagang. Depuis 2 jours, Nietzsche se concentrait sur les mesures à prendre face à une attaque imminente. Mais dès qu'elle s'arrêtait une seconde pour souffler, le monde sans Richard lui paraissait vide, moins lumineux, moins à peu près tout, pour être franche. En même temps, lorsqu'il était là, son obsession au sujet de Callan épuisait Nietzsche. Par moments, elle avait eu envie de l'étrangler. Pour lui dessiler les yeux, elle avait tout essayé, de la patience à l'abrupte franchise. Rien n'y avait fait. Autant tenter de renverser une montagne. Au bout du compte, ni ses actes ni ses paroles n'avaient eu la moindre influence. Si Nietzsche souhaitait guérir Richard de ses fantasmes, c'était pour son bien, rien de plus ni de moins. Mais pour le ramener à la réalité avant que quelque chose de terrible se produise, elle devait jouer la méchante vis-à-vis de lui, et elle détestait endosser ce rôle face à un ami très cher. Avec un peu de chance, dès qu'elle aurait mis Alterang à l'abri des troupes de l'ordre et du sorcier Chronos, Nietzsche rattraperait très vite Richard et Kara. Mais avec des chevaux de rechange et au rythme où le sourcier était capable de voyager, elle doutait de le rejoindre avant qu'il soit arrivé chez Chota. S'il parvenait jusque-là, et si la voyante ne l'abattait pas dès qu'elle le verrait. D'après ce que Nietzsche savait des femmes comme Chota, Richard avait peu de chances de sortir vivant de cette rencontre. D'autant moins qu'elle ne serait pas à ses côtés pour l'épauler. Cela dit, Richard connaissait la voyante. Sachant qu'elle était une vraie dame, d'après ce qu'on disait d'elle en tout cas, le sourcier aurait probablement la sagesse de se montrer courtois. Être impoli avec une voyante n'était pas une très bonne idée de toute façon. Mais cette rencontre avec Chota, même si elle ne se terminait pas par un drame, serait dévastatrice, puisque Richard n'obtiendrait aucune aide. Comment s'en étonner quand on savait qu'il n'existait pas d'épouse perdue nommée Callan? Parfois, Nietzsche était furieuse que Richard s'accroche ainsi à une illusion. À d'autres moments, elle se demandait s'il n'était pas en train de devenir fou. Une idée trop terrifiante pour qu'elle approfondisse. Frappé par une idée stupéfiante, Nietzsche s'immobilisa au milieu du trottoir. Les hommes qui la suivaient s'arrêtèrent en catastrophe et leurs imprécations l'arrachèrent à sa méditation. Ces braves types étaient avec elle afin de superviser les défenses de la cité, en fonction de ses instructions, bien sûr, et de servir de messager entre les différents groupes d'insurgés. Pour l'instant, ignorant la raison de cette pause impromptue, il semblait mal à l'aise et n'osait parler.
« Là-haut, »
dit Nietzsche en désignant un bâtiment de 3 étages.
« Au coin de la rue. » Ce sera parfait pour surveiller les environs. Postez des archers derrière toutes les fenêtres et fournissez-leur de grosses réserves de flèches.
Je vais jeter un coup d'œil,
annonça un des hommes. Il s'éloigna et traversa la rue en slalomant entre les chariots, les chevaux et les charrettes à bras. Des gens allaient et venaient dans les 2 sens. N'accordant pas un regard à Nietzsche et ses compagnons, les badauds conversaient à voix basse et baissaient à peine les yeux sur les étals de marchands ambulants. Un peu partout, par petits groupes, les citadins discutaient de la bataille à venir et des précautions qu'ils avaient prises pour s'en tirer vivants. Tant que c'était encore possible, des chariots de toutes les tailles continuaient à sillonner la ville pour livrer des vivres et de l'équipement partout où il en fallait. Bizarrement, Nietzsche n'entendait pas le vacarme de la rue. Plongée dans ses pensées, elle réfléchissait à Chota. Elle venait de s'aviser que la voyante pouvait mentir à Richard, lui faisant croire qu'elle allait l'aider. Ces femmes avaient une façon bien à elles de résoudre les problèmes, et rien ne comptait à leurs yeux à part leurs intérêts personnels. Si le sourcier empoisonnait la vie de Chota avec ses questions, elle pouvait décider de s'en débarrasser en l'envoyant poursuivre une illusion à l'autre bout du monde. Chota était assez perverse pour agir ainsi afin de se distraire tout simplement. Si elle condamnait Richard à mort en lui conseillant de s'enfoncer dans quelque lointain désert, ça ne signifierait pas forcément qu'elle le détestait. Une voyante était capable de tuer quelqu'un pour plaisanter. Bien entendu, trop pressée de retrouver sa femme imaginaire, Richard ne prendrait pas le temps de la réflexion et il se jetterait tête baissée dans le piège. Nietzsche s'en voulait de l'avoir laissé partir pour rencontrer une voyante mortellement dangereuse. Mais qu'aurait-elle pu faire? Personne n'était en position d'interdire quoi que ce soit au seigneur Rall. La seule possibilité était d'en finir le plus vite possible avec le frère Chronos et ses troupes, puis de rejoindre Richard et de tout tenter pour le protéger. Nietzsche suivit du regard le retour de l'homme chargé d'aller inspecter le bâtiment. Le pauvre avait du mal à éviter les chariots et les cavaliers. Pourtant, le trafic était bien moins dense que d'habitude. Partout en ville, les gens se préparaient à la bataille, les plus peureux se terrant déjà dans des cachettes où ils croyaient être en sécurité. Foutaise! Nietzsche était entré dans quelques villes conquises en compagnie des soudards de l'ordre. On n'était à l'abri nulle part dans ces moments-là. Après avoir évité un ultime chariot, l'homme rejoignit Nietzsche et attendit en silence qu'elle daigne l'interroger. Il ne dirait rien tant qu'elle ne lui aurait pas demandé, parce qu'il avait peur d'elle. Tous les citadins la redoutaient. Parce qu'elle était une magicienne, bien sûr, et plus grave encore, une magicienne de très mauvaise humeur. Personne ne comprenait pourquoi elle était si morose. Mais depuis 2 jours, les gens marchaient sur des œufs quand ils approchaient d'elle. Pourtant, ils n'avaient rien à craindre, car l'état de Nietzsche n'avait rien à voir avec eux. En fait, la folle équipée de Richard elle-même n'y était pour rien. Concentrée sur les combats à venir, l'ancienne maîtresse de la mort redevenait un peu la femme qu'elle était jadis, une guerrière impitoyable, prête à tout faire pour vaincre et déjà occupée à s'endurcir afin de ne pas flancher au mauvais moment. Lorsqu'on s'apprêtait à tuer sauvagement, on ne sifflotait pas un air entraînant et on évitait les remarques primesautières sur le temps. Face au désastre, broyer du noir semblait une bonne réaction. Fidèle à sa légende, Nietzsche ne prenait pas la peine de justifier ses humeurs. De telles explications lui auraient coûté de l'énergie au moment où elle en avait le plus besoin. Fermée comme une huître, l'ami de Richard se préparait à déchaîner des forces obscures et meurtrières qui dépassaient l'imagination du commun des mortels. L'heure n'étant pas aux cours magistraux, les citadins d'alter rang devraient prendre Nietzsche comme elle était.
« Alors ?»
demanda-t-elle calmement à l'éclaireur.
« C'est parfait, » dit l'homme. « Ce bâtiment en briques est une manufacture de textiles. Chaque étage est en fait une seule et même salle. Nos archers s'y déplaceront sans peine, et ils pourront passer de fenêtre en fenêtre pour avoir le meilleur angle de tir possible. »
Nietzsche mit une main en visière pour se protéger les yeux du soleil couchant et regarda derrière elle, sondant l'avenue en direction de l'ouest. Après avoir étudié la configuration des rues et des divers carrefours, elle décida que celui où il se trouvait était le meilleur choix possible. Étant donné sa largeur, cette avenue et celle qui la prolongeait seraient à coup sûr le premier choix de la cavalerie adverse lorsqu'elle entrerait en ville par les portes est. Nietzsche connaissait les tactiques de prédilection de l'ordre impérial. Ses soudards aimaient les voies d'accès larges et bien droites, histoire de faire jouer à fond leur supériorité numérique. Si l'ennemi entrait dans la cité par l'est, comme Nietzsche l'espérait, la cavalerie emprunterait cette avenue.
« Très bien, » dit Nietzsche à l'éclaireur. « Fais poster dans ce bâtiment des archers munis d'une énorme réserve de flèches, et dépêche-toi parce qu'il nous reste peu de temps. »
Alors que l'homme partait exécuter ses ordres, Nietzsche repéra Ishak sur le siège du conducteur d'un chariot qui remontait la voie. L'homme au chapeau rouge semblait pressé. Nietzsche devinait pourquoi il venait la voir, et cette idée lui donnait des sueurs froides. En attendant qu'il arrive, elle se tourna vers un autre de ses hommes.
« Au-delà du bâtiment où seront postés les archers, il faudra construire une barrière de pieux. À cet endroit, il y a des immeubles des deux côtés de l'avenue, donc l'obstacle sera dur à négocier. Tu vois le carrefour un peu plus loin ? Il faudra bloquer de la même façon les deux rues latérales. Si des survivants tentent de s'échapper, ils tomberont dans un deuxième piège. »
Lorsque les cavaliers galoperaient dans l'avenue, aveuglés par l'ivresse de la conquête, il suffirait de relever la barrière avec des cordes et d'attendre qu'ils viennent s'embrocher dessus. Les archers se chargeraient des survivants coincés entre l'obstacle et les camarades qui les suivaient. Le second homme partit lui aussi au pas de course. Au sujet des pieux, Nietzsche avait déjà donné ses instructions et des dizaines d'ouvriers, dans la forge de Victor et dans d'autres, fabriquaient déjà ces armes très simples mais terriblement efficaces. En fait, le principe était celui d'une clôture de jardin, n'était que les poteaux ne faisaient pas tous la même taille et qu'ils avaient une pointe capable de transporter le poitrail d'un cheval ou le torse d'un homme. Lorsque les pièges reposaient à plat sur le sol, ils ne gênaient pas la circulation des chariots et des cavaliers. Mais quand on les relevait, l'effet se révélait dévastateur, surtout si on pensait à varier la taille des pieux qui pointaient ainsi vers le haut selon des angles différents. De cette manière, les cavaliers adverses étaient condamnés quoi qu'ils fassent. S'ils continuaient à galoper droit devant eux, les pieux les plus bas et les plus horizontaux déchiquetaient le ventre de leur monture, et s'ils tentaient de sauter par-dessus l'obstacle, leur cheval avait fort peu de chances de passer sans se faire déchirer les entrailles par les pointes les plus hautes. Un concept élémentaire et pourtant très efficace. Les défenseurs avaient disposé partout en ville des herses de ce type. En général, ils avaient choisi de les placer à des carrefours. Leurs montures blessées ou paniquées, les soudards adverses seraient pris au piège et les archers pourraient les abattre comme à l'entraînement. Les cavaliers suivants seraient obligés de s'arrêter, faisant eux aussi des cibles de choix. Les herses avaient un seul défaut. Une fois relevés, il n'était pas facile de les baisser de nouveau. Du coup, les équipes de défenseurs qui les manipulaient avaient reçu l'ordre de ne pas les lever automatiquement dès qu'elles apercevraient l'ennemi. Quitte à laisser passer quelques attaquants, il valait mieux attendre que ces pièges bloquent des forces assez importantes, les coupant progressivement les unes des autres. Pour défendre une ville, éliminer la cavalerie adverse était une des clés du succès. Nietzsche savait d'expérience que les défenseurs, face à des hordes d'envahisseurs, risquaient d'oublier tous les plans complexes pour s'enfuir à toutes jambes. Elle avait assisté plus d'une fois à ce spectacle. Fous de peur, les citadins transformés en soldats battaient en retraite sans même songer à relever les pièges. Pour remédier à cette difficulté, Nietzsche avait prévu plusieurs rangées de herses. Pratiquement tous les citadins s'étaient investis dans la défense d'Alterrang. Comme on pouvait s'en douter, certains seraient plus efficaces que d'autres. Même les femmes réfugiées chez elles avec leurs enfants étaient munies de pierres et de chaudrons d'huile bouillante qu'elles lanceraient de leurs fenêtres sur les immondes conquérants. Par manque de temps, il avait été impossible de fabriquer des armes sortant de l'ordinaire, mais à tous les coins de rue, des hommes veillaient sur des faisceaux de lances. Bien sûr, ça n'avait rien d'extravagant, mais quand il s'agissait d'étriper un homme ou un cheval, tout ce qui faisait l'affaire était le bienvenu. Dans le même ordre d'idées, des milliers de citadins avaient été bombardés, archers d'élite. Avec une flèche, un vieillard pouvait tuer net un jeune homme vigoureux et à distance par-dessus le marché. Un projectile intelligemment utilisé pouvait même mettre un terme à l'existence d'un sorcier. Les citadins auraient été fous de vouloir affronter les soudards de l'ordre selon les règles de la chevalerie. Pour avoir une chance de vaincre, ils devaient attirer l'ennemi en terrain inconnu. Nietzsche avait voulu transformer la cité en un piège géant. Maintenant que c'était fait, il ne restait plus qu'à convaincre l'ordre de s'y jeter tête baissée. C'était l'objet de la venue d'Ishak. Tirant sur les rênes de son attelage, l'homme au chapeau rouge immobilisa son chariot en soulevant un impressionnant nuage de poussière. Dès qu'il eut mis le frein, il sauta du véhicule.
« Nietzsche, Nietzsche !»
cria-t-il en brandissant ce qui ressemblait à une feuille de parchemin. La magicienne se tourna vers ses hommes.
« Filez vous occuper des préparatifs. Il nous reste à peine quelques heures, j'en ai peur. »«
Ils n'attendront pas jusqu'à demain matin ?»
demanda un défenseur.
« Non, je pense qu'ils attaqueront ce soir. »
Nietzsche ne jugea pas utile de préciser pourquoi elle faisait cette prédiction. Les hommes s'éparpillèrent comme une volée de moineaux. Les joues aussi rouges que le couvre-chef qu'il tenait dans une main et la robe de la magicienne, Ishak arriva enfin devant l'ami de Richard.
« J'ai un message, une lettre pour le maire. »
Nietzsche sentit ses entrailles se nouer.
« Des soldats ont approché en agitant un drapeau blanc. » « Exactement comme vous l'aviez dit. Ils avaient une missive pour le maire. Comment aviez-vous deviné ?»
Nietzsche ne daigna pas répondre.
« Vous avez lu la lettre ?»
Ishak s'empourpra de plus belle.
« Oui, Victor aussi. Il est furieux et l'énervé n'est jamais bon.
Vous avez un cheval pour moi, comme je l'ai demandé.
Oui, oui, mais d'abord, vous devriez lire.
Nietzsche suivit ce conseil.
Honorable mère, j'ai entendu dire que les habitants d'Alterang, influencés par ta sagesse, désirent renoncer au péché et se soumettre de nouveau à la bienveillante autorité de l'ordre impérial. Si tu veux vraiment leur épargner le châtiment que nous réservons aux mécréants et aux factieux, prouve ta bonne volonté en m'envoyant ta délicieuse femme, les mains liées, afin que je puisse disposer d'elle selon mon bon plaisir. Si tu refuses de me faire ce modeste présent, tous tes administrés mourront. Au nom du Créateur Tout-Puissant, frère Chronos, chef de la force impériale de réunification.
Allons-y, dit simplement Nietzsche tout en froissant la lettre dans son poing. Ishak remit son chapeau et suivit la magicienne jusqu'au chariot.
Vous n'avez pas l'intention de faire ce que demande cette brute.
Nietzsche prit souplement place sur le banc du conducteur.
En route, Ishak.
En marmonnant, l'homme s'assit à son tour, desserra les freins, secoua les rênes et cria aux gens de s'écarter de son chemin. Lorsque le chariot s'ébranla, Ishak fit claquer dans l'air la lanière de son fouet, histoire de stimuler l'attelage. Nietzsche ne desserra pas les dents tandis que le véhicule avançait dans les rues de la cité, passant devant des rangées de boutiques et de bâtiments d'habitation. Les maraîchers, les fromagers, les boulangers et les bouchers étaient pris d'assaut comme à la pire époque de l'ordre impérial, mais il y avait une explication. Affolés, les gens faisaient des réserves avant le début de la tempête. Quand le chariot entra dans une partie plus ancienne de la cité, la rue devint plus étroite. Sans ralentir beaucoup, Ishak commença par faire s'égailler devant lui les chariots et les charrettes à bras qui obstruaient le passage. Puis il décida de prendre un raccourci car l'exercice devenait de plus en plus difficile. Ici, les maisons faisaient rarement plus d'un étage. Du linge pendait à toutes les fenêtres et les minuscules jardins étaient tous reconvertis en potagers, histoire d'améliorer l'ordinaire de familles nombreuses aux ressources précaires. Il y avait aussi des poulaillers dont les occupants couinaient d'abondance lorsque le chariot passait devant eux à toute vitesse. Ishak conduisait son véhicule avec une maestria impressionnante. Beuglant sans cesse des avertissements, il contraignait d'innocents badauds à s'écarter à la hâte, parfois en se jetant sous des portes cochères. Le chariot s'engagea dans une rue dont Nietzsche se souvenait très bien. Il longea un moment une haute muraille, l'enceinte de l'entrepôt d'Ishak, puis franchit un portail et entra dans une grande cour bordée de hauts chênes. Nietzsche sauta à terre au moment où Victor sortait du grand entrepôt. L'air furieux, il semblait décidé à étrangler la première personne qui lui tomberait sous la main.
« Vous avez lu la lettre ? » demanda-t-il.
« Oui, vous avez mon cheval ?»
Victor désigna l'entrepôt derrière son épaule.
« Que faisons-nous maintenant ? Ils attaqueront à l'aube, je suppose. Pas question de laisser les types au drapeau blanc vous conduire à leur chef. Mais nous ne pouvons pas non plus les laisser repartir et raconter à Chronos que nous nous fichons de ses demandes. Alors, qu'allons-nous leur dire ?»
Nietzsche inclina la tête vers l'entrepôt.
« Ishak, vous voulez bien aller chercher le cheval ?»«
Vous devriez épouser Richard, »
marmonna l'homme au chapeau rouge.
« Vous feriez un beau couple de dingues !»
Soufflé, Nietzsche put seulement foudroyer l'insolent du regard.
« Ishak, vite !»
dit-elle quand elle eut recouvré sa voix.
« Le temps presse. Ces émissaires ne doivent pas s'en retourner les mains vides. »«
Comme il vous plaira, Majesté !» Si vous me permettez d'aller chercher votre royale monture.
Je ne l'ai jamais vu se comporter ainsi, dit Nietzsche à Victor tandis qu'Ishak se dirigeait vers l'entrepôt en marmonnant dans sa barbe.
Il pense que vous êtes folle et je partage son opinion.
Le forgeron plaqua les poings sur ses hanches.
Votre ruse a-t-elle mal tourné ou aviez-vous prévu ça depuis le début ?
N'étant pas d'humeur à polémiquer, Nietzsche soutint le regard de Victor. « Mon plan est d'en terminer ici aussi vite que possible afin d'aller rejoindre Richard en toute bonne conscience. »«
Et vous livrer à Chronos vous y aidera ?»«
Si nous les laissons attaquer à l'aube, nos ennemis auront l'avantage. Ils doivent passer à l'action aujourd'hui. »«
Aujourd'hui ? Mais il va bientôt faire nuit. »«
Précisément. »
dit Nietzsche. Elle se pencha et prit dans le chariot une bonne longueur de corde.
« Eh bien, » dit Victor en réfléchissant, « il est vrai que la lumière les avantagerait. Si nous les poussons à attaquer aujourd'hui, l'obscurité sera un handicap pour eux. »
« Je vais vous les amener. Soyez prêts, c'est tout ce que je vous demande. »
« J'ignore comment vous ferez, mais s'ils viennent, nous les attendrons de pied ferme. »
Ishak sortit de l'entrepôt en tenant par la bride un étalon blanc tacheté de noir. Sa queue, sa crinière et ses jambes sous le boulet étaient également noirs. Un cheval élégant, mais aussi puissant, du genre à avoir une endurance sans limite. Pourtant, ce n'était pas ce qu'attendait Nietzsche.
« Il n'est pas si grand que ça, »
se plaignit-elle à Ishak.
« Vous n'avez jamais dit grand. Si je me souviens bien, vous vouliez un cheval costaud et sans peur, le genre de bête que rien ne fait fuir. »«
Dans mon esprit, un équidé pareil était grand. »«
Victor, cette femme est folle !»
souffla Ishak à son ami.
« Bientôt ce sera une folle morte et enterrée. »
Nietzsche tendit sa corde au forgeron.
« Quand je serai en selle grimpée sur le muret, là, et tout sera très simple. »
La magicienne flatta l'encolure de l'étalon, puis lui caressa les oreilles. Jugeant ce traitement agréable, l'animal flanqua de gentils petits coups de tête à sa future cavalière. Nietzsche utilisa un peu de pouvoir pour apaiser l'animal, puis elle en fit lentement le tour, histoire de bien l'examiner.
Résigné, Victor grimpa sur le muret et attendit que la magicienne se soit hissée en selle.
Quand elle eut arrangé les plis de sa robe, Nietzsche la déboutonna jusqu'à la taille, sortit les bras des manches, tint le devant du vêtement sur sa poitrine avec les coudes et tendit vers Victor ses poignets plaqués l'un contre l'autre. Le forgeron devint rouge comme une pivoine.
« Quelle mouche vous pique, bon sang !»«
Ces soudards sont des vétérans de l'ordre impérial. Il y a des officiers parmi les porteurs du drapeau blanc. » Et j'ai passé beaucoup de temps dans le camp de Jagang. J'étais très connue, je vous prie de le croire. On m'appelait la reine esclave, ou encore la maîtresse de la mort. Si certains de ces hommes étaient là à l'époque, ils risquent de me reconnaître. C'est pour ça que j'ai mis une robe rouge à la place de ma tenue noire habituelle, une précaution à tout hasard. Pour que mon visage ne risque pas de me trahir, je vais inciter ces types à regarder... autre chose. Même des soldats si bien entraînés tomberont dans le panneau. Chronos pensera que le maire est décidément très désireux de lui faire plaisir. Les hommes comme lui sont excités par la faiblesse plus que par toute autre chose.
Les poignets liés et à demi nus, vous aurez de gros ennuis avant d'arriver devant Chronos.
Je suis une magicienne, ne vous en faites pas pour moi.
Si je ne me trompe pas, Richard est un sorcier, et il porte une arme magique. Tout ça ne l'a pas empêché de frôler la mort quand il a dû affronter trop d'ennemis à la fois.
Nietzsche agita les bras.
Attachez-moi.
Victor foudroya la magicienne du regard, mais il finit par capituler. Pendant qu'il œuvrait, Ishak tint l'étalon par la bride.
Ce cheval est rapide ?
Demanda Nietzsche.
Sadine galope très vite, oui.
Répondit Ishak.
Ça dîne ? Dans l'ancienne langue, ça voulait dire le vent, n'est-ce pas ?
Oui, vous connaissez l'ancienne langue ?
Un peu. Aujourd'hui, ça dîne devra être plus rapide que le vent. À présent, écoutez-moi tous les deux. Je n'ai pas l'intention de me faire tuer.
C'était le cas de beaucoup de cadavres,
grogna Victor.
« Vous ne comprenez pas. C'est ma meilleure chance d'atteindre Chronos. Quand l'attaque aura commencé, il sera presque impossible de le trouver. Et même si j'y parvenais, comment l'approcher ? Si je ne le neutralise pas, ce sorcier fera des ravages dans nos rangs. Les soldats le savent, et pendant l'action, ils veillent jalousement sur leur détenteur du don. Je dois agir ce soir. »
Victor et Ishak échangèrent un regard effaré.
« Tout le monde devra être prêt. » continua Nietzsche. « Quand je reviendrai, j'aurai à mes trousses des gens très mécontents. »
Victor serra le dernier nœud et leva les yeux.
« Et combien seront-ils ?
J'espère avoir toute leur force derrière moi.
Et pourquoi ces gens seront-ils mécontents ?
Demanda Ishak.
Si je puis me permettre de poser la question, bien sûr.
Avant d'éliminer le sorcier, je compte flanquer un sacré coup de bâton dans le nid de vipère.
Nous serons prêts,
grogna Victor.
Mais je ne suis pas sûr que vous pourrez ressortir du camp.
Nietzsche n'en était pas certaine non plus. Elle se rappela l'époque pas si lointaine que ça, où l'idée de mourir la laissait de marbre. Les choses avaient bien changé depuis.
Si je ne reviens pas, faites de votre mieux, voilà tout. Avec un peu de chance, j'aurais emporté Chronos avec moi dans la mort. De toute façon, nous avons de bonnes défenses.
Richard connaissait votre plan ?
Demanda Ishak.
Il a dû deviner, oui. Mais il a eu le bon goût de ne pas m'effrayer encore plus en discutaillant, contrairement à vous. Ce n'est pas un jeu, savez-vous. Nous combattons pour survivre, et si nous échouons, des milliers d'innocents connaîtront un sort atroce. J'ai participé à des attaques de cité dans l'autre camp. Je sais ce que ça implique, et je fais tout pour l'éviter. Si vous ne voulez pas m'aider, écartez-vous de mon chemin.
Nietzsche dévisagea les deux hommes. Vexés, ils ne dirent rien. Victor vérifia ses nœuds, puis dégaina son couteau et coupa la longueur de corde excédentaire.
« Qui va vous escorter jusqu'aux émissaires ?»
demanda Ishak.
« J'aimerais que ce soit vous, mon ami. Pendant que Victor mobilisera les défenseurs, vous jouerez le rôle d'un représentant du maire. »«
D'accord. »«
Parfait, alors. »
Nietzsche saisit les rênes entre ses mains.
« Madame, » dit Victor, « je voulais vous parler de quelque chose. Voilà un petit moment que ça me tracasse, mais nous avons été tellement occupés. »
« De quoi s'agit-il ? »
« Eh bien, les gens commencent à douter de Richard. »«
Comment ça, à douter ?»«
Il y a des rumeurs sur les raisons de son départ. Les citadins s'inquiètent qu'il les abandonne pour aller à la chasse aux fantômes. » Ils se demandent si un tel homme est un chef digne de ce nom. Certains avancent que Richard est dérangé en quelque sorte. Que dois-je répondre ?
Nietzsche prit une profonde inspiration, histoire de se laisser le temps de choisir ses mots. C'était exactement ce qu'elle redoutait. Pour éviter ça, elle aurait voulu que Richard ne s'en aille pas, ou au moins qu'il ne file pas ainsi juste avant l'attaque.
Victor, rappelez aux citadins que le seigneur Rall est un sorcier, c'est-à-dire quelqu'un qui voit des choses, par exemple les menaces cachées, qu'eux ne peuvent pas distinguer. Précisez qu'un sorcier ne passe pas son temps à justifier ses actes devant les gens. Ajoutez que le seigneur Rall a des responsabilités partout dans le monde, et pas seulement ici. Si les citadins d'Alterang veulent être libres, ils doivent se battre pour ça et croire que Richard, le sorcier de vérité, s'en est allé pour servir au mieux notre cause.
« Et vous croyez à ce que vous dites ?»
demanda le forgeron.
« Non, mais il y a une différence essentielle. Je peux être fidèle aux idéaux que Richard m'a aidé à découvrir et m'efforcer de le ramener à la raison. Pour moi, les deux démarches ne sont pas incompatibles. En revanche, les citadins doivent croire en leur chef. S'ils pensent qu'il est devenu fou, ils perdront tout courage et renonceront à la lutte. Et c'est un risque que nous ne pouvons pas courir. » La santé mentale de Richard n'a aucun rapport avec la validité de notre cause. La vérité est la vérité, avec ou sans lui. Les troupes qui viennent pour nous massacrer sont tristement réelles. Si elles nous écrasent, les rares survivants devront de nouveau plier les chines sous le joug de l'ordre impérial. Que Richard soit vivant, mort ou fou allié n'y changera rien.
Victor acquiesça sobrement. Le dirigeant avec les genoux, Nietzsche poussa Sadine à s'approcher davantage du muret, puis elle orienta ses épaules vers le forgeron.
« Faites glisser l'eau de ma robe jusqu'à ma taille, et dépêchez-vous surtout, parce que le soleil ne tardera pas à se coucher. »
Empourpré, Ishak détourna la tête. Victor hésita un moment, puis il fit ce qu'on lui demandait.
« Allons-y, Ishak !»
lança Nietzsche.
« Passez donc le premier. Victor, je vous amènerai bientôt l'ennemi lancé à la poursuite du soleil couchant. »«
Que dois-je dire aux hommes ? »
Nietzsche afficha l'expression glaciale qui lui avait jadis valu d'être surnommée la maîtresse de la mort.
Conseillez-leur d'avoir des pensées sombres et violentes.
Pour la première fois de la journée, un sourire mauvais étira les lèvres de Victor Casquella.